L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau rendez-vous mensuel, Place des Jacobins, dans l'Allée des Veuves précisément. Un marché de libre. Oui, du coup, c'est pas Place des Jacobins. C'est ça, Place des Jacobins. J'ai eu raison sur ma première intuition. Un marché de libraires et de disquaires, la mensuelle du livre et du vinyle. Pour en parler, je reçois Frédéric Mignon. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, puis nous présenterons le Pop Power Festival avec ses organisatrices Carole Bourganoff et Jade Guillemot. Enfin, nous écouterons la chronique étudiante d'Ismaël et nous finirons sur une chronique Pourquoi lire en 2024. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
Plus on est de fous et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fous et plus on s'emmerde.
Frédéric Mignon, vous êtes libraire à la Chartre-sur-le-Loire et membre de l'association des passionnés du livre et du vinyle. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que cette association ?
Bien, c'est une association en cours de constitution qui réunit à ce jour une petite douzaine de libraires du Mans, enfin de la Sarthe, également de Mayenne et un qui vient d'Angers. Et il y a également parmi eux un seul disquaire pour le moment.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir au travers du livre et du vinyle la culture et le livre.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à la constituer, cette association ?
Bien, ça fait longtemps qu'on travaille de façon groupée. On avait organisé l'Iroport l'an dernier avec la mairie. Et puis on s'est dit que constituer en association, ça nous donnait un petit peu plus de poids. Et puis aussi accès à des facilités. Par exemple, quand on ouvre un compte en banque dans une banque, parfois, quand on est une association, on peut avoir quelques avantages. Et je trouve que c'est en plus l'idée de la vie associative qui nous intéresse.
Ça marche. Alors, vous occupiez précédemment, en été 2023, la place du port pour un rendez-vous mensuel qui s'appelait l'Aéroport. Vous vous déplacez donc vers l'Allée des Veuves. Alors, pourquoi ce changement d'adresse ?
Alors, parce que, en fait, le port, la mairie, je crois, a l'intention de que le port devienne un lieu d'animation important pour la ville. Et donc, on était un petit peu comme des pionniers là-bas. Mais comme la mairie n'est pas encore tout à fait prête à mettre les moyens ou elle a besoin peut-être un peu plus de temps pour faire de ce port un vrai lieu d'animation, on s'est senti non seulement pionnier, mais un peu esselé, si vous voulez.
Un peu cobaye.
Un peu cobaye, plus que pionnier.
D'accord, donc vous n'aviez pas assez de monde, en fait.
Alors voilà, ça a marché une fois ou deux. Puis après, les gens, même des gens du Mans, ne savaient pas où c'était.
Ouais.
Donc on a eu un petit peu de mal là-dessus. C'est pas aussi bien desservi que l'Allée des Veuves. Alors, il faut peut-être préciser où est l'Allée des Veuves.
Oui.
Parce que donc c'est bien Place des Jacobins. Et c'est cette allée légèrement en pente qui est située entre le pâté et la voie de tramway.
C'est ça.
Côté Place du Jacobin et tout près des nombreux cafés qui sont là.
C'est l'allée qui conduit en fait au parc et au musée de TC.
Voilà, exactement.
Alors, la première date de ce rendez-vous, c'était donc ce samedi 13 avril. Oui. À partir de maintenant, on vous retrouve tous les deuxièmes samedis du mois, c'est bien ça ?
C'est cela, tous les deuxièmes samedis du mois, à deux exceptions près pour 2024, qui sont le 13 juillet. Samedi 13 juillet, c'est la veille du 14, donc il faut installer les préparatifs de la fête. Donc là, elle est annulée, et en octobre, nous serons cette fois-ci intégrés à Fête Lire et donc ce sera les 5 et 6 octobre.
D'accord.
Dans un lieu qui n'est pas encore défini, mais dont j'espère qu'il sera proche de l'Allée des Veuves.
Et là, du coup, vous serez présent tout le week-end.
Là, on sera présent les deux jours.
Alors, est-ce qu'on pourra se sustenter sur place pendant ces rendez-vous de bouquinistes et de disquaires ?
C'est indispensable. Donc, nous avons la chance de retrouver le même food truck qui s'appelle... Peut-être, le savez-vous, il s'appelle, je ne sais plus, un très bon,
plus.
qui s'appelle les, c'est les...
Je crois qu'il y a Cookie dans le nom.
Oui, c'est, les, c'est quelque chose de Cookie. C'est un très joli camion rose, joliment décoré. Et qui, voilà, ils étaient là samedi et ils ont été très contents de leur présence.
Mmh, mmh. Et vous d'ailleurs, est-ce que ça vient...
Pardon, ça s'appelle Cookie, je ne sais pas quoi du Cookie, mais ils font du salé et du sucre.
Ah oui, c'est important très ça, important. Effectivement. Alors, du coup, vous, donc, lui, apparemment, il était content de sa journée. Voilà. Est-ce que vous, les libraires et les disquaires, ça a été samedi ?
Voilà. Alors, les nourritures terrestres ont été assurées. Et nous qui vendons des nourritures plus immatérielles, plus spirituelles, nous avons été aussi très contents. C'est-à-dire que, bon, les dieux étaient avec nous, dans la mesure où il a fait très beau, où ça a été bien repris dans la presse, donc bien annoncé. Et on a eu une vraie affluence avec des gens... tout à fait satisfait de la diversité de l'offre et de l'ambiance générale. Et on est très content. Le seul petit problème, c'est qu'la mairie nous a fait une belle bâche qui est tombée.
Ah,
à midi, elle est tombée.
Ah.
Donc, on va en faire une autre pour la prochaine fois, j'espère.
Bon. Alors, en parlant de l'offre, justement, qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de marchandises durant ce rendez-vous mensuel ?
Alors, on peut trouver un peu de tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est de... Les libraires qui font partie de l'association ont des positionnements assez divers. Hein, donc, on peut trouver des livres anciens, des reliures, jusqu'à des livres du XVIIe. Il y avait même un livre du XVIe siècle, bon, qui sont là pour aussi montrer qu'on peut faire d'avoir des très belles choses. Et puis après, on a aussi des poches à 3 euros, des romans, des beaux-arts, de l'histoire, des voyages, de la BD. Et puis en termes de disques, il y a des vinyles, 33 tours, 45 tours, et aussi quelques CD et quelques DVD, et aussi des mangas par exemple.
Ok. Et alors par exemple, vous qui représentez sur cet événement la librairie Modeste de la Chartre-sur-le-Loire et la librairie sans nom sur le Mans avec Pascal Chassant, qu'est-ce que vous apportez vous sur ce marché ?
Alors nous, précisément, on a apporté un peu ce que je vous dis, c'est-à-dire du poche à la BD. C'est nous qui avions ce très beau livre du XVIe siècle, qui est une coutume de Normandie de 1599, donc la dernière qui a été éditée au XVIe siècle, mais on avait aussi une partition originale de Philidor, qui est un musicien baroque, donc, et puis de la littérature, de l'histoire, du régionalisme. On avait quelques livres assez rares sur Le Mans, et puis des livres beaucoup plus courants, y compris un livre dédicacé par, je ne sais plus son nom, par la... un livre de chansons, des chansons qui étaient diffusées à la BBC pendant la guerre, qui était chantée par cette femme qui était celle qui a écrit la musique du chant des partisans.
D'accord. Ah oui, ok, d'accord.
Donc,
ça marche.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vendu le plus ? De la littérature, des poches, des essais ?
Alors, nous, on n'a pas amené assez de littérature, parce qu'il semble que la littérature est plutôt bien marché.
Ah ouais.
Et sinon, on a vendu un peu de tout, des poches, des BD, et puis aussi des livres un peu curieux, qui sortent un peu de l'ordinaire, un manuel de protection civile des années 50, qui vaut par la qualité de son illustration, des choses comme ça.
Alors, ça tourne autour de quel prix, en fait, le vinyle et le livre d'occasion ?
Écoutez, ça va de 3 euros, les vinyles sont entre 5 et 10 euros. Après, il y a des choses, il y a des objets de collection qui sont plus chers, mais un roman broché dans la Blanche de Gallimard, par exemple, c'est autour de 6 euros, 7 euros, 5 euros.
Donc, il y en a pour tous les budgets.
Exactement, il y en a pour tous les budgets. Et puis après, il y a des choses qui montaient jusqu'à 1500 euros, mais qui étaient plus là pour montrer la qualité. Je pense que personne... On ne sait pas vraiment les vendre, hélas.
Hélas, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus, le livre d'occasion par rapport au livre neuf ?
Alors, comment dire ? D'abord, il y a une question de prix. C'est que faut savoir que le métier de libraire de neuf est le métier dans lequel il y a le moins de marge de tous les commerces, de 30%. Donc, il y a le prix. Un livre aujourd'hui, c'est 20, 21, 22 euros, autour de 20 euros. Ouais, facile, un roman. Chez nous, le même, il est à 5, 6 euros. Bon. Après, il y a aussi le plaisir de trouver des livres qui ne sont plus édités, donc un peu le plaisir du chineur, du fouineur de trouver ça.
Et de puis, la trouvaille. Quoi.
Voilà. Mais puis, il y a un vrai accès à la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'en pense notre président, le livre est pour beaucoup de gens inaccessible et, l'économie circulaire permet à beaucoup de gens d'acheter des œuvres de qualité à des prix abordables plutôt que de s'en priver. Alors bien sûr, ils peuvent aller dans les médiathèques, mais il y a quand même un plaisir de posséder les livres que beaucoup de gens ont et ils préféreront peut-être acheter un livre à 6 euros qu'à 21 euros.
Alors, vous faisiez référence à notre président tout à l'heure. C'est vrai que pendant le Salon du Livre, là, du 12 avril, Emmanuel Macron a déclaré vouloir instaurer une taxe sur le livre d'occasion. Quel est votre regard sur cette proposition?
Alors, il fait ça au nom de la défense du prix unique du livre. Prix unique du livre que nous défendons également. Ce serait une catastrophe si cette loi sur le prix unique du livre était remise en cause, ce qu'elle est régulièrement. Donc, ça, c'est une première chose. Mais, comme je le disais, c'est aussi un accès à la culture. Et puis, il a déjà été acheté une fois, ce livre. Donc, comme tous les biens d'occasion, une fois qu'il a été acheté, il passe dans le marché de la seconde main. Et effectivement, dès le lendemain matin, un livre à 20 euros ne vaut plus que 6 euros. Mais ça, c'est comme une voiture à 50 000 euros qui en vaut je ne sais pas combien le lendemain. Donc, il y a une espèce... Et puis, donc on a déjà payé. C'est comme si on payait deux fois. Alors, en ce qui concerne les libraires d'occasion, au moment du Covid, du commerce, on était au commerce indispensable. Enfin, je ne sais plus si comment on
dit. Je crois que c'était ça, commerce indispensable.
Donc, on avait beaucoup travaillé pour défendre, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller sur les marchés alors qu'on était indispensable. Bon. Donc, on avait déposé un recours en Conseil d'État et puis beaucoup conféré avec des collègues. Et donc, par exemple, dans les ventes aux enchères, il y a un droit de suite sur certaines œuvres. Alors, on pourrait à la rigueur imaginer qu'il y a un droit de suite et qu'il y a une espèce de taxe, mais vraiment symbolique. Pourquoi pas mais à mettre en place, c'est très compliqué, parce qu'il faudrait la mettre en place que pour les auteurs, que pour les livres qui ne sont pas tombés dans le domaine public. Enfin, ça paraît extrêmement compliqué. Et surtout, qui sont les gens que défend M. Macron? C'est les très grands groupes d'édition. Comme toujours. Et donc, il va peut-être s'attaquer aux plateformes, mais les petits libraires d'occasion qui défendent vraiment, qui ont un choix littéraire ou de qualité, ça va être encore eux qui vont pâtir le plus, quoi.
Alors, merci beaucoup pour votre regard sur cette déclaration. On va revenir, si vous voulez bien, à notre sujet, donc à la mensuelle du livre et du vinyle au Mans. On sait que le Mans est une ville littéraire, avec ses événements comme Faites lire, les librairies Bulle, Thuard et Doucet. Est-ce que la ville du Mans est aussi fournie en termes de librairies d'occasion?
Alors, oui. Alors, je corrigerai un tout petit peu. Une ville littéraire, c'est une ville du livre.
D'accord.
Littéraire, ça, c'est un autre choix.
Okay.
Quand on fait un salon du livre, on défend tous les livres. Certains d'entre nous défendent vraiment une certaine littérature de qualité et pas l'autre.
D'accord.
Y a livre et livre. Le livre qui se vend à 1 million d'exemplaires, c'est pas le même qui se vend à 7 000 exemplaires. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une ville du livre. Il y a les libraires que vous avez cités. Et puis, il y a quand même... 6 ou 7 libraires d'occasion qui ont pignon sur rue au Mans, mais ceux qui font partie de l'association, à 2 exceptions près, sont des gens qui vendent plutôt sur les marchés et en ligne.
Et parce que les marchés, c'est une part essentielle de votre activité de libraire d'occasion?
Alors, tout dépend des choix. Il y a certains libraires qui ne vont jamais libraires d'occasion qui ne vont jamais sur le marché, qui travaillent surtout en boutique, en ligne, et qui ont parfois un fichier client qui leur permet de travailler en profondeur. Mais nous, dans notre cas, on a choisi d'être à la fois en boutique, sur les marchés et en ligne.
Parce que j'imagine que ça dépend pas mal de la situation géographique de la boutique aussi.
Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des libraires sont obligés d'aller chercher le lecteur, et je pense qu'il faut, enfin nous pensons qu'il faut marcher sur 3 pattes, quoi, c'est-à-dire boutique, plein air et internet.
Alors la mensuelle du livre et du vinyle, est-ce qu'elle permet d'accentuer encore cette prédisposition du Mans à être une ville du livre, selon
certainement, vous ? Certainement, une mensuelle. Alors, c'est une mensuelle qui a lieu tous les deuxièmes samedis. Elle est en plein air, donc c'est vrai que c'est probablement à partir de novembre et jusqu'en avril, certaines seront annulées pour cause de météo, parce que même si on est sous des parasols, même si on est sous des tentes, l'humidité, quand il pleut, s'infiltre partout et abîme les livres. Mais
a priori, vous comptez quand même être là l'hiver.
Oui, on compte être là l'hiver, les samedis où le temps le permettra.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'organiser comme ça une mensuelle du livre et du vinyle, ça, dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans un endroit assez central, ça doit être un facteur d'animation important. Mmh. Donc là, on a eu surtout des gens régionaux, mais une clientèle de proximité, mais on va développer la communication en ligne et on espère que des gens vont remonter de Tours, vont remonter de Mayenne, vont remonter de l'Orne, et que ça peut devenir un petit peu plus qu'une manifestation manso-mancelle.
En fait, votre ambition, c'est de faire de cette mensuelle un rendez-vous connu du public en quête de livres, de faire partie intégrante du paysage de centre-ville, comme c'est le cas par exemple des bouquinistes dans les villes de Rennes ou de Paris.
Voilà, exactement. À la différence près que les bouquinistes de Paris sont en. J'ai rencontré le président des bouquinistes de Paris et qui se désespérait un peu que, en fait, il y a beaucoup de commerçants qui prennent des boîtes sur les quais de Seine en disant je vais vendre du livre.
Ouais.
Et plus on se rapproche de Notre-Dame et des lieux vraiment
touristiques,
plus il y a des tours Eiffel et des objets touristiques, et moins il y a de livres. Donc ça, je le dis parce que c'est là aussi le livre recule. Voilà. Mais effectivement, c'est cette idée-là. À Rennes, il y a un marché tous les jours.
Alors avant qu'on rappelle les dates pour cette mensuelle, où est-ce qu'on peut vous trouver en dehors des mensuelles sur l'allée des veuves ?
Eh bien, le plus simple, c'est de nous contacter par mail à l'adresse contact@lespassionnésdulivreetduvinyle. Voilà, c'est le plus simple.
Il y a un accent sur le E de passionné ?
Non, il n'y en a pas, puisque d'accord. C'est une adresse mail.
Jamais d'accent sur les adresses mail. C'est toujours important de le préciser.
Voilà, oui, tout à fait.
Je vous remercie Frédéric Mignon pour nous avoir parlé de la mensuelle du livre et du disque. Je rappelle, voilà, vous pouvez rappeler les prochaines dates, effectivement.
Alors, c'est le 11 mai,
ouais.
Le 8 juin, donc le 13 juillet, on fait relâche. Ensuite, ce sera le 10 août, le 14 septembre, les 5 et 6 octobre.
Pour Faites Lire, du coup.
Pour Faites Lire. Et si le temps est avec nous, les 9 novembre et 14 décembre.
Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Mignon.
Merci aussi.
On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez gagner des places pour Gwendoline et Hyperculte le 18 avril à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Harry Belafonte, Mr. Bojangles.
Oh, I knew a man, Bojangles, and he'd dance for you in worn-out shoes, with silver hair and ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe, he'd jump so high, he'd jump so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. I met him in a cell. He talked of life, he laughed.
lick. Cross the cell, he grabbed his pants, a better stance. Oh, he jumped so high. He clicked his heels, he let go a laugh, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. He danced with those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about. His dog up and died, his dog up and died. After 20 years, he still grieves. He said, now I dance at every chance in honky tonks. Pour drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. Cause I drink so big. His head, and as he shook his head, I heard someone ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles,
dans l'amphi pour vous parler du festival Pop Power sur la culture asiatique.
Plus on est de fouet, plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand plus on est de fouet, plus on s'emmerde.
Je suis avec Carole Bourganeuf et Jade Guillemot qui viennent nous parler du festival Pop Power, dont elles sont les organisatrices et chargées de communication, qui se déroule du 16 au 18 avril au Mans. Un événement organisé par les deuxièmes années de licence LEA Parcours Asie. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi consiste le festival Pop Power ?
Oui, tout à fait. Alors du coup, le festival Pop Power, c'est un événement avant tout pour mettre en valeur la culture asiatique, et plus particulièrement celle de la Chine, du Japon et de la Corée.
D'accord. Et alors, c'est un événement qui est entièrement porté par la licence LEA Parcours Asie ?
Oui, c'est ça, uniquement la licence LEA et le Parcours Asie, du coup, notamment.
Mais est-ce que vous avez des partenaires, quand même, dans l'organisation de cet événement ?
Alors, du coup, on a fait la programmation par nous-mêmes, et on est allé chercher, du coup, des partenaires, comme Sushi Shop.
D'accord, pour les lieux des différents événements. Alors, est-ce qu'il s'agit de la première édition de ce festival ?
Non, c'est la deuxième édition. Il y en a déjà eu un l'année dernière.
Ok.
Et vu que le festival s'est très bien passé et que tous les élèves ont apprécié, on a décidé de le reproduire cette année encore. Et on espère que ça se passera tout aussi bien que l'année dernière.
Et alors, donc, ce festival, il montre en fait que d'une certaine manière, la culture asiatique, elle s'est imposée en France, c'est ça ? Mais de quelle manière, en fait ?
C'est-à-dire que son influence est par, du coup, multiples moyens, plusieurs aspects, et c'est ce qu'on veut montrer, du coup, sur les différentes soirées, c'est que c'est devenu une part de notre vie quotidienne aussi. Ça s'est vraiment répandu à travers tous ces aspects.
Et alors, est-ce qu'on est davantage touché par la culture de la Corée, de la Chine ou du Japon? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus que l'autre?
Bah, ça dépend des thèmes dans lesquels on se sent le plus concerné. Pour si c'est de la musique, on est plus concerné par la K-pop, donc par la Corée du Sud.
D'accord. Souvent.
Après, il y a tout ce qui est animé et du coup le cosplay aussi. Donc là, c'est plus la culture japonaise. Pour la nourriture,
ça pourrait venir des trois. Enfin,
ouais.
Y a beaucoup de plats chinois. Il y a des restaurants du coup sur le Mans qui font des plats chinois ou bah du coup comme les sushis qui viennent du Japon.
Et donc ça, ouais, c'est vraiment entré en fait dans notre quotidien d'Européens, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres aspects comme ça de la culture asiatique qui sont vraiment devenus une part de notre quotidien?
Il y en a sûrement, mais...
Il paraît qu'en France, on est des très gros consommateurs de manga, je pensais.
Ah oui.
En tout cas, cet événement Pop Power sera donc animé par plusieurs temps forts. Notamment le 16 avril, c'est donc une soirée animée et cosplay. Les animés, ce sont donc ces dessins animés le plus souvent adaptés de manga. Donc on a bien vu, c'est un élément culturel important en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de cette soirée du 16 avril?
C'est du coup le cosplay, comme vous avez dit, c'est vraiment quelque chose importante dans la culture asiatique.
Ça consiste en quoi d'ailleurs le cosplay?
C'est le fait de reproduire un personnage issu de la pop culture du coup asiatique en imitant du coup son costume et aussi des fois des poses,
des manières de parler,
c'est ça.
Et du coup c'est quelque chose qu'on va faire par exemple dans des festivals, des événements. En fait, à quelle occasion est-ce que ça apparaît, le cosplay?
Souvent c'est dans des festivals. Je sais qu'il y a la Japan Expo à Paris où il y a beaucoup de représentations de cosplayers.
Alors, pendant la soirée du 16 avril, il y a un film qui sera projeté, c'est ça?
Oui, c'est le film Akira qui sera diffusé du coup au cinéma Les Cinéastes.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la suite de la soirée à Manga Pop? Qu'est-ce qui va s'y dérouler?
Du coup, durant la soirée Manga Pop, avec du coup la présentation des cosplayers, il y aura des animations. Mmh. L'équipe qui s'occupe de cette soirée a préparé des animations avec des lots à gagner. Et du coup aussi une présentation pour expliquer la partie cosplay.
Alors des lots à gagner, c'est-à-dire?
Ah, ça on peut pas en dire.
D'accord, on peut pas le dire maintenant.
Voilà.
Ok, ça marche. Alors le festival Pop Power se poursuit le 17 avril avec une soirée à la Brasserie 72 sur le thème de la musique. Pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Lors de cette soirée, il y aura une représentation d'un groupe de danse qui nous fera des danses de K-pop.
D'accord.
Il y aura aussi du coup une présentation des étudiants pour présenter du coup l'impact de la K-pop en général. Et il y aura aussi des animations avec encore une fois des lots à gagner.
Ok. Alors ça consiste en quoi en fait la K-pop finalement?
C'est un genre musical qui vient du coup de la Corée, qui s'est fortement propagé avec le soft power coréen et qui a aujourd'hui un grand impact sur l'industrie musicale.
Il y a des groupes de K-pop marquants, des icônes de la K-pop?
Je sais qu'il y a BTS qui est super connu mondialement. Après, il y a Blackpink aussi.
Alors enfin, le 18 avril, c'est soirée culinaire au Sushi Shop. Qu'est-ce qu'on pourra y déguster pendant cette soirée?
Alors du coup, ça sera des sushis, une multitude de choix. Et aussi en dessert, il y a des mochi.
Et comment se caractérise en fait la cuisine asiatique? Quels sont les plats typiques?
C'est souvent des sushis qui sont très répandus en France. Il y a aussi tout ce qui est les ramen.
Alors est-ce qu'il y aura un tarif pour tous ces événements?
Du coup, pour la soirée K-pop et animé cosplay, ça sera gratuit.
Ouais.
D'accord.
C'est ouvert à tous,
c'est ça.
Ok, ça marche. Et pour la projection du film Akira, j'imagine que ce sera au tarif des cinéastes?
Oui, oui, c'est ça.
D'accord, ok. Et donc la soirée culinaire, on mange gratuit ou pas?
Non, du coup, c'était sous inscription. Malheureusement, c'est plus accessible.
D'accord,
c'est...
les inscriptions sont clôturées pour cette soirée-là. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, merci Carole Bourganoff et Jade Guillemot pour être venues nous présenter la programmation du festival Pop Power sur la culture asiatique du 16 au 18 avril au Mans. Merci.
Merci beaucoup.
On fait une pause. Vous pouvez gagner des places pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Dionysos et Voyou, Tokyo Montana.
J'ai froid, je pleure de la neige, et je ramasse tout ça d'un coup de poignet plein de laine. Je regarde le tout clignoter fondre comme une guirlande de Noël, crevant sur mon pull, crevant sur mon pull. J'ai chaud, mes yeux clignotent, c'est le même bruit que les briquets. Des flammes me poussent à la place des cils, grâce à ma tête d'Irlandais. Oh, personne n'a, oh, n'ont rien remarqué. J'ai froid, oh, oh, je pleure de la neige. Je pleure de la neige, j'ai froid, oh, oh, je pleure de la neige, je pleure de la neige.
I'm calm, calm like a brand new blind man. Maintenant que mes cils sont cousus de flammes,
toutes mes larmes ont fondu et je me sens incroyablement calme. I'm calm, calm like a brand new blind man. I'm calm, calm like a brand new blind man. J'ai froid, je pleure. Je pleure de la neige,
j'ai froid, oh, oh. Je pleure de la neige, je pleure de la neige,
j'ai froid, oh, oh. Je pleure de la neige, je pleure de la neige, j'ai froid, oh, oh. Je pleure de la neige, je pleure de la neige.
Retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Ismaël. Salut Ismaël.
Salut.
Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Aujourd'hui je vais vous parler du racisme anti-blanc.
Bah c'est parti, on t'écoute.
Le 11 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin disait la phrase suivante. Dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est ne pas dire la vérité. Dans le dictionnaire Larousse, le racisme est défini comme suit. Une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelée race. Comportement inspiré par cette idéologie. Ou, deuxième définition, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. En partant de ces définitions un peu rapides, c'est impossible de contredire Darmanin. Le racisme anti-blanc est parfaitement possible parce que, après tout, il peut exister toutes sortes de racisme. Pourtant, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, si on s'intéresse au racisme, ce qui est inévitable, c'est d'essayer de comprendre son histoire. L'émergence de l'idéologie raciste, elle est inséparable du contexte historique de l'esclavage et de la colonisation. Il y a plusieurs manières de considérer l'émergence du racisme dans ce contexte particulier. L'une des plus convaincantes, c'est le couple de termes infrastructure et superstructure qui nous vient directement de la pensée marxiste. On qualifie d'infrastructure le processus de production, le déploiement de la force de travail et les rapports de force au sein de ce processus de production. Par exemple, durant la colonisation et l'esclavage, on peut dire qu'on retrouvait la domination des colonisés sur les colonisateurs dans le domaine économique, avec des rapports de force au sein du processus de production qui était outrageusement favorable aux colons blancs. De l'autre côté, la superstructure, c'est l'ensemble des représentations et des idées qui sont directement induites par cette organisation matérielle de la production et qui la reflètent. Comme l'organisation de la production était très favorable aux blancs, alors l'idéologie et les constructions intellectuelles qui en résultent sont aussi favorables. Et de cette manière, ont émergé des idéologies qui cherchaient à justifier l'esclavage, parmi lesquelles le racisme. On peut d'ailleurs voir que la construction de l'idéologie raciste, donc la superstructure, elle est très liée à l'évolution des rapports de force du point de vue matériel et concret, donc l'infrastructure. Et donc, l'histoire étant ce qu'elle est, et la France étant un pays post-colonial, la superstructure du racisme s'est prolongée, jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des partis politiques, des médias, des courants intellectuels qui sont encore en plein dans l'idéologie raciste. Évidemment, il y a les partis d'extrême droite qui articulent leur projet politique autour de l'idée du choc entre une civilisation occidentale blanche et la civilisation islamique slash du tiers-monde slash africaine. Mais ces idées-là, elles sont absolument pas limitées aux partis d'extrême droite. Par exemple, durant les derniers mois, on a pu observer un biais extrêmement raciste quant au traitement du conflit israélo-palestinien, y compris de la part d'acteurs qui ne sont pas affiliés à l'extrême droite. Le journaliste David Pujadas, il a par exemple posé la question suivante: est-ce qu'un mort à Gaza est la même chose qu'un mort en Israël? C'est une phrase qui sous-entend bien évidemment que c'est pas le cas. Ça montre parfaitement le biais raciste, parce qu'il remet en question l'idée selon laquelle toutes les vies pourraient se valoir, en se basant sur une détermination raciste. En l'occurrence, les Arabes qui seraient soutien des terroristes. D'un autre côté, le traitement des victimes civiles perçues comme blanches dans d'autres conflits, ça n'a rien à voir. Dès le début de l'invasion russe en Ukraine, on a vu des hommes politiques appeler à une intervention militaire de la France ou de l'Union européenne. On a aussi vu avec surprise des appels à accueillir le plus de réfugiés ukrainiens possible, venant de journalistes qui sont pourtant habitués à réclamer que l'immigration soit toujours plus restreinte. Ils se basaient là encore sur des arguments plus ou moins explicitement racistes, comme par exemple que les Ukrainiens ont, je cite, « les mêmes voitures que nous ». Attention, l'idée c'est pas de dire qu'il fallait intervenir ou pas, ou qu'il fallait accueillir des Ukrainiens ou pas, mais c'est simplement d'observer qu'il y a une grosse différence dans le traitement des victimes qui se base sur une grille de lecture raciste. Et plus classiquement, on peut aussi parler de la discrimination à l'emploi, à l'embauche, mais aussi de l'expérience des individus perçus comme non-blancs avec toutes les institutions, police, justice, école, administration, armée, etc. Ce qu'on voit, c'est que ce qu'on appelle le racisme, c'est très loin de se limiter à des stéréotypes ou à des rapports conflictuels d'une personne à une autre. C'est une idéologie, une vision du monde et de l'humain, un produit de la superstructure qui est infiltrée dans toute la société et qui est omniprésente dans le rapport de force politique. Maintenant, on peut s'intéresser au racisme anti-blanc. En général, quand on parle de racisme anti-blanc, c'est souvent pour évoquer l'idée qu'il y aurait donc un sentiment de haine, d'hostilité vis-à-vis des blancs. Cette haine anti-blanc, elle serait particulièrement développée dans, entre guillemets, certains quartiers, dans lesquels il serait mal vu, par exemple, de manger du porc ou d'avoir un prénom français. Et d'ailleurs, dans ces quartiers, les insultes envers les blancs seraient très courantes. Sale blanc, babtou, gouer, etc. On peut, par exemple, se rappeler du journaliste sportif Pierre Ménès qui se plaignait que son fils blanc ne soit jamais titulaire dans son club de foot malgré qu'il soit très fort, contrairement aux enfants noirs. Ou bien l'avocat Maxime Thiébaud qui se plaignait de son coiffeur maghrébin qui lui mettait une claque derrière le crâne en lui disant « sartec la coupe » lorsqu'il avait fini de lui couper les cheveux. Et là, si on garde à l'esprit tout ce que contient et représente le racisme politiquement et historiquement, on voit très vite le problème. En développant l'idée d'un racisme anti-blanc, on défend une vision rabougrie du racisme qu'il ramène simplement à des rapports interpersonnels conflictuels, par exemple les insultes ou les incivilités, qu'on ne pourrait expliquer que par la stupidité ou la méchanceté. Ça évacue toute la dimension politique et historique qui est contenue dans l'idée de racisme. Et d'ailleurs, on a bien vu que lorsqu'on parle de racisme anti-blanc en France, on ne parle pas de politique ou de discours médiatique raciste, mais on évoque plutôt le domaine des rapports interpersonnels, on parle d'un sentiment anti-blanc ou d'une haine des blancs. On peut d'ailleurs comparer le racisme anti-blanc avec l'idée de misandrie, c'est-à-dire le sexisme anti-homme. Certainement, un homme peut être victime de mauvais comportements de la part des femmes parce que c'est un homme, mais ça serait absurde d'envisager que la misandrie, ça puisse être quelque chose du même ordre que la misogynie. Donc déjà, d'un point de vue strictement théorique, ça tient pas vraiment. Mais en plus, on est obligé de se demander comment est concrètement mobilisé le discours du racisme anti-blanc, que ce soit du point de vue de ceux qui émettent ce discours, mais aussi du point de vue des situations concrètes dans lesquelles il est mis en œuvre. Le racisme anti-blanc, il est souvent utilisé en quelque sorte pour contrebalancer le discours antiraciste. Quelque part, d'un côté, les non-blancs y subissent du racisme de la part des blancs, mais les blancs y subissent aussi du racisme de la part des non-blancs, donc il y a un peu balle au centre. Ça permet donc de relativiser et d'atténuer la critique du racisme en induisant, certes implicitement, une sorte d'équivalence entre les discriminations subies par les blancs et les non-blancs. Et là, directement, ça permet d'embrayer sur une critique de l'antiracisme sous toutes ses formes. La lutte contre le racisme n'aurait jamais pris en compte les discriminations subies par les blancs, et au final, ce serait la preuve que cette lutte ne viserait pas tant à lutter contre l'oppression qu'à culpabiliser et accabler les blancs de tous les malheurs du monde et à victimiser les non-blancs. Et le fait qu'on en arrive là, c'est absolument pas étonnant si on regarde quels camps politiques font l'usage de ce concept de racisme anti-blanc, à commencer par l'extrême droite. Ce sont des courants qui n'ont jamais montré d'intérêt particulier pour la lutte contre le racisme ou les discriminations, et qui en fait sont souvent ceux qui font subsister l'idéologie raciste. Et on serait vraiment naïf de croire que des personnages comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen se sont découverts une âme de militants antiracistes, comme par hasard, au moment où cela leur permet de porter des critiques au mouvement antiraciste. Au final, ça paraît peut-être intéressant de reformuler la question. Au lieu de se demander si le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas, question qui se révèle un peu stérile, on pourrait essayer de prendre les partisans de cette idée au pied de la lettre. Supposons que le racisme anti-blanc, c'est une réalité. Comment on peut le caractériser ? L'écrivain Albert Memmi, il a proposé l'expression de racisme édenté, qui renvoie au fait que le racisme anti-blanc, il reste un racisme impuissant, confiné au rapport interpersonnel et qui représente aussi, dans une certaine mesure, une réaction et une imitation du racisme plus classique. Ça nous permet de mettre en perspective le racisme anti-blanc, qui est donc édenté, avec l'idée de racisme en tant que superstructure, en tant que construction intellectuelle, culturelle et historique, qui infléchit une grande partie de l'organisation sociale, y compris encore aujourd'hui, et qui est infiltré beaucoup plus profondément que le racisme anti-blanc, quoi que cette expression puisse vouloir dire.
Merci beaucoup Ismaël pour ta chronique, encore une fois très bien rédigée, très bien construite. Merci de nous avoir éclairé sur cette notion effectivement très problématique. On illustre tout de suite la chronique d'Ismaël avec Dinos et Dossé Taciturne.
Gens bien finissent mal, gens mauvais finissent mal aussi, mais tout se négocie, tout se falsifie, ce qui est bon est illégal. Alors je commence à croire que si l'amour c'était si bien, ce serait interdit par la loi. Les gens bien finissent mal, les gens mauvais finissent mal aussi, mais tout se négocie, tout se falsifie, ce qui est bon est illégal. Alors je commence à croire que si l'amour c'était si bien, ça serait interdit par la loi. Royal comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre comme Rocky, je me sens comme Yao Ming, gagné dans le Wyoming, on dit Jimmy Iovine, j'ai mal au bide. Je devrais quitter le rap comme le Royaume-Uni. Revenir au quartier avec le maillot de Munich. Ouais, les petits grandissent, les chasseurs deviendront proies. Je viens de la rue, alors cherche les bonnes choses au mauvais endroit. Hier j'ai failli crever sur la route, tout ça m'en épile. Tiens, cette pute de faucheuse que je serai en retard comme Laurie Neal. Maman, j'ai quitté le quartier, c'est vrai, je te promets. Mais ça bouge pas, la Courneuve, les quatre tueuses, tu connais. Je suis dangereux, comme un regard sous la nuit, comme un frère qui est jaloux de toi, comme un gun ou comme un T-Max sous la pluie. Rendre à César ce qui appartient à César. Toi, allez, car elle qu'appartient à César. Tout appartient à l'Afrique. Mais bon, je me plains plus trop. J'ai du bif, j'ai du mauve. J'ai fini par comprendre que pour qu'il y ait des riches, faut des pauvres. Faut pas que les vrais reconnaissent les faux pour que le monde puisse plus souffrir. Faut que les faux reconnaissent les vrais pour que les enfants naissent plus sous X. Ok, je prie par peur et parfois je prie par lâcheté. J'aurais aimé éviter ces embrouilles à MHD. Le temps qu'un frère me tue, ça sera pas très long. On est ce gars dans ma tête, donc y'a un S à mon prénom. Faire la guerre, ça m'a l'air terrible. J'suis plutôt peace. J'marque mon territoire comme R. Kelly. Les gens bien finissent mal, les gens mauvais finissent mal aussi. Mais tout se négocie, tout se falsifie. Ce qui est bon est illégal. Alors j'commence à croire que si l'amour c'était si bien, ça serait interdit par la loi. Les gens bien finissent mal, les gens mauvais finissent mal aussi. Mais tout se négocie, tout se falsifie. Ce qui est bon est illégal. Alors je commence à croire que si l'amour c'était si bien, ce serait interdit par la loi. On n'a pas ce qu'on mérite, non. On a que ce qu'on prend. C'est pas d'appart qu'on hérite, nous. Enfin, je me comprends. Si tu regardes mon périple, alors tu sais qui je suis. Je suis un enfant terrible, alors ouais, il me fuit. Mais qu'est-ce que tu veux? Passer la trentaine, on se refait plus. Et je crève à petit feu. Voir mon peuple en haisse, ça me répugne. Résultat des courses, le nord en tue le sud, c'est pas un scoop. Lumière dans la nuit, c'est la maglite des keufs, c'est pas un scoot. On perd à la hurle, puis les premiers balbutiements. Je comprends qu'ils aient peur.
vu de loin, ça doit être hallucinant. Entre frères, on s'insulte pour dire je t'aime, car sinon, ça fait tep quand c'est dit trop gentiment. Plutôt ouvrir nos coffres que nos cœurs, plutôt montrer nos armes et de la dope que montrer nos sentiments. Trop attiré par le crime, fasciné par la vie de grandiban. Mais cette merde n'est qu'un leurre comme le racisme anti-blanc. La vérité sort de la bouche de 6ix9ine, pas des gosses. Sur scène, je me sens comme Whitaker dans le dernier roi d'Écosse. Yeah, je suis arrivé moche, je finis en beauté. À chaque heure où je suis un peu plus proche d'Alico Dangote. Ouais, je n'ose dire, tant si tu en sais de la dé à ce qu'on dit. Un fist fuck dans leur trou de bâtard à dé à Frandi. J'ai la barre comme un terreau devant une terre à se bonder. Je nique pas la lispo, je préfère niquer une clear à te conder. Les gens bien finissent mal, les gens mauvais finissent mal aussi. Mais tout se négocie, tout se falsifie. Tout ce qui est bon est illégal. Alors je commence à croire que si l'amour c'était si bien, ce serait interdit par la loi. Les gens bien finissent mal, les gens mauvais finissent mal aussi. Mais tout se négocie, tout se falsifie. Tout ce qui est bon est illégal. Alors je commence à croire que si l'amour c'était si bien, ce serait interdit par la loi. Hey.
De retour dans l'amphi, et pour la fin de cette émission, je vous propose une chronique « Pourquoi lire ?» en 2024 sur l'adversaire d'Emmanuel Carrère.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Pourquoi est-ce que les tueurs, les maniaques, les sadiques fascinent-ils ? Je suis sûr que vous avez tous vu un film ou une série consacrée à un tueur, qu'il soit réel ou fictif. Le plus souvent, il s'agit d'une fascination répulsive, comme on en éprouve pour Jeffrey Dahmer ou d'autres malades de ce genre. Mais parfois, la fascination peut être sincère et profonde pour des personnages absolument ignobles. Prenez par exemple le personnage du Joker, qui, après la sortie du film où le prince du crime est incarné par Joaquin Phoenix, est devenu l'égérie de toutes les foules en colère, un véritable symbole de contre-pouvoir, alors qu'il n'est en fait qu'un fou maniaque. Nous avons tendance à idéaliser les caractères extrêmes, peut-être dans une fonction cathartique. On projette sourdement nos propres pulsions de mort sur les actes infâmes commis par d'autres. Ou bien simplement, on est sidéré par cet autre radical qu'est le psychopathe, celui qui n'a pas accès à l'altérité car pour lui, tout est un objet à sa disposition. Emmanuel Carrère a voulu affronter au plus près ce grand autre incompréhensible et en a gardé une trace, son livre qui s'intitule « L'adversaire ». L'adversaire avec un grand A, comme le grand autre, consonance démoniaque évidente. Bref. Le nom du mal à l'état pur. Qui est cet adversaire ? A priori, il s'agit de Jean-Claude Roman, que Carrère est allé visiter dans sa prison. L'histoire de Jean-Claude Roman est assez unique. Un médecin père de famille, aimé de tous ses proches, massacre un jour sans prévenir sa femme, ses enfants et ses parents. En enquêtant, on comprend que ce n'est pas tant ce crime qui est inexplicable, mais son mobile, un mensonge de toute une vie. Car en effet, il s'avère que Roman n'a jamais obtenu son diplôme de médecine et qu'il n'a ainsi jamais pratiqué. Mais alors de quoi vivait-il ? Il persuadait ses proches de lui donner leur argent pour qu'il le place et leur rapporte. Argent qu'en fait il dilapidait pour subvenir aux besoins de sa famille. La vie tout entière de Roman était un pur mensonge à l'insu de tous, y compris de sa femme. Évidemment, la situation n'a pas duré éternellement, bien que la longévité du mensonge de Roman soit tout à fait exceptionnelle. Et se voyant rattrapé par la réalité, la vérité devant bientôt se dévoiler à la vue de tous, Roman décide de tuer sa famille pour leur épargner la déception. Il tente de mettre fin à ses jours, mais échoue. Emmanuel Carrère tente d'abord dans son livre de comprendre pourquoi Roman a ainsi passé sa vie à mentir, s'enfonçant toujours plus profondément dans une situation impossible, jusqu'à commettre l'irréparable, seule issue à une vie qui n'existait qu'en façade et qui ne pouvait pas même sauver en préservant l'ignorance par la mort. Qui est l'adversaire ? Jean-Claude Roman ? Ou bien une force étrange qui l'a poussé à illusionner son entourage, un malin génie, un père du mensonge. Drôle de nom d'ailleurs, Roman, pour quelqu'un qui a inventé sa vie. Carrère constate à quel point l'homme a besoin de fiction pour vivre, de se construire sa propre fiction, et combien la réaction peut être violente, animale, quand cette fiction s'effondre. C'est une constatation brutale de la fragilité de notre monde et de ses représentations. Cela m'évoque un autre livre de Carrère, La classe de neige, où là aussi la pureté et l'innocence se voient arrachées par un mensonge qui cachait une vérité redoutable. Ou encore, de manière plus indirecte, son roman La moustache, où un homme, après avoir rasé sa moustache qu'il portait depuis 10 ans, voit son monde se renverser complètement et chaque aspect de sa vie remis en question dans un cauchemar absurde. On sent que c'est un thème cher à Carrère, la vérité monstrueuse qui défigure le monde tel qu'on le vit. Et puis, au fur et à mesure que Carrère avance dans son entretien et sa réflexion sur Jean-Claude Roman, l'interrogation se déplace, ne porte plus sur la tuerie de Roman, qui s'explique en fait très simplement par la panique du masque qui tombe, mais ne porte plus non plus sur le mensonge de Roman. Carrère, pour qui la vitre de séparation avec le détenu devient un miroir, s'interroge sur ses propres mensonges. Qu'est-ce qui l'a conduit à rencontrer Jean-Claude Roman ? La fascination pour les tueurs dont je parlais au début ? Peu probable quand on y pense. Roman est très loin du psychopathe de base. Il est profondément misérable. Il n'a tué aucunement par plaisir, mais par terreur. Le meurtre n'est pas inné chez lui. Ce n'est qu'une conséquence de sa mythomanie et de ses erreurs. Quoi alors ? Pourquoi Roman fascine Carrère ? Peut-être parce que Carrère est un écrivain et que pour lui, la question de la fiction est une question centrale. Roman a voulu écrire sa vie et la vie lui a résisté et ce faisant, l'a détruit. Carrère, en tant qu'écrivain, expérimente tous les jours la résistance de l'écriture, de la fiction. À commencer par ce livre, L'Adversaire. Qu'essaie-t-il vraiment d'écrire ? Une enquête ? Un documentaire ? Mais le livre prend de plus en plus des airs d'introspection, d'interrogation et de doute sur lui-même. Qui est l'adversaire du titre ? Est-ce que ce ne serait pas le livre lui-même ? Tous les livres. Le livre avec un grand L, l'inatteignable. Jean-Claude Roman est un mythomane, étymologiquement celui qui aime les histoires. Est-il la victime de leur propre trahison ? De même que l'air nous est essentiel et que nous ne pouvons vivre sans un environnement solide, de la matière, un sol tangible, de même la fiction est nécessaire à l'homme qui peut s'y noyer. Et c'est ce qui hante Carrère et probablement tout écrivain. Le gouffre qui s'ouvre dans chaque mot noir sur la blancheur de la page, comme une plaine de neige immaculée minée par les gueules ouvertes de la main de l'homme. Un monde troué, par le poinçonneur, l'adversaire. Et Carrère fixe les petites roues de la vitre par lesquelles passe la voix de Roman. Bref, lisez L'Adversaire en 2024.
Barfuß am Strand lang gehen, in den Sternenhimmel sehen. Sich in grüne Wiesen legen, spazieren gehen im Regen, klassische Musik anhören, für immer dir gehören, viele, viele Kinder kriegen und dich für immer lieben. Yeah.
c'était donc Rammstein, Lugen. Merci d'avoir écouté l'Amphi. On se retrouve mardi 16 avril pour une émission spéciale sur le rapport entre les jeunes et le théâtre. Un prof de théâtre et trois de ses élèves discuteront avec des jeunes qui boudent le théâtre. On examinera si l'idée commune selon laquelle les jeunes ne vont pas au théâtre est fondée, quelles raisons l'expliquent et si ces raisons peuvent être désamorcées. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.